Santé, c'est bon pour la santé.
Bon midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette avec vous, avec grand plaisir pour les 60 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé et vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui à l'émission, Michèle Serrois, collaboratrice à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, vient nous présenter son nouveau livre intitulé « Vieillir en santé, c'est possible » qu'elle a coécrit avec la chercheuse Sylvie Belleville. Dans ce livre, on y aborde ces questions. À quoi s'attendre lorsque l'on vieillit? Qu'est-ce qui est normal également lorsqu'on prend de l'âge? Et qu'est-ce qu'une personne âgée peut faire pour assurer une qualité de vie le plus longtemps possible? Le vieillissement, ça nous touche tous. Donc, on voudra, j'imagine, tous entendre ces questions et ces réponses. Avec Catherine Guérard, chef d'équipe de formation chez Altergo, on parle de ressources et d'activités disponibles et accessibles lorsque vient le temps d'inscrire son enfant qui vit avec des limitations fonctionnelles à des activités de loisirs, une réalité qui touche bien des parents en ce moment et bien des familles. Catherine Guérin pourra nous éclairer. Aussi avec Dr Langis-Michaud, professeur à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal et président de l'Ordre des optométristes du Québec. On parle de la mise en garde sur l'impact que peuvent avoir les écrans sur la santé visuelle des enfants. Temps écran qui sera probablement réduit dans les prochaines semaines parce que les parents voudront réduire ce temps pour permettre à leurs enfants de se préparer aux examens. On veut que nos enfants étudient, qu'ils se concentrent sur la période des examens qui débute en ce moment. Période anxiogène aussi, oui, importante aux yeux des parents, des enseignants, mais peut-être bouleversante et stressante pour nos enfants. Marie Lalande est conseillère pédagogique de français au primaire, maintenant retraitée. Elle nous parlera de l'autre côté de la médaille, de la réalité pour nos petits, nos ados. Mais tout ça, juste avant la revue de presse de Christiane Campagna. Christiane Campagna, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là. Premier article paru dans la presse, la dépression postpartum aussi chez les pères, selon une étude américaine.
En fait, j'ai fait une erreur quand je vous ai briefé tout à l'heure, Marianne. C'est australien.
Bon, c'est... on change un peu de continent. Bon,
donc, je vais vous passer un nom anglais, puis j'avais conclu trop rapidement. Donc, tout comme les femmes, les hommes seraient plus à risque de dépression quand ils ont un bébé. Le taux de dépression chez les hommes double dans les 9 mois suivant la naissance d'un enfant, selon Lisa Underwood, psychologue à l'Université d'Auckland en Australie, qui est l'auteur principal d'une étude publiée au début du printemps dans la revue JAMA Psychiatry. Elle dit, bon, on n'est pas encore certain, on ne peut pas affirmer là, sans erreur le lien causal, mais c'est très similaire à ce qu'on voit chez les femmes. Les chercheurs australiens ont suivi 3500 pères depuis le moment de la grossesse de leur conjointe. Et on a aussi consulté une spécialiste québécoise, Francine de Montigny, professeure de sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais. Elle se spécialise dans la santé psychosociale des familles et selon elle, ce serait même peut-être encore plus élevé que ça. Elle pense à un taux d'entre 8 et 10 % Une des causes serait que les pères se sentent plus facilement incompétents face à leur bébé. Ça peut être des choses aussi banales que ne pas avoir gardé quand tu étais jeune qui amène ce sentiment-là. Et on ouvrait l'article avec l'exemple de Biz du groupe Locolocas qui raconte ce qui lui est arrivé. Batlam faisait une pause de Locolocas parce qu'il tournait un film sur Dédé Fortin. Je me demandais comment j'allais nourrir mon enfant, c'était quoi mon avenir. Et en plus, j'ai toujours eu besoin de beaucoup de sommeil et me réveiller la nuit était difficile. Je me suis mise à avoir de la misère à sortir de mon lit, je ne voyais plus mes amis, je me fâchais pour rien. À un moment donné, après un an, je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais ri. Ma blonde m'a dit, tu vas voir un médecin ou je te quitte.
Il en parle dans Dérive, d'ailleurs.
Voilà, ça a fini par donner un roman.
Et voilà, merci. On poursuit cette revue de presse avec un autre article paru dans la presse. Peu de produits laitiers dans les boîtes à lunch des enfants, selon une étude, cette fois-ci, du Saguenay.
Oui, on voulait savoir ce que contiennent les boîtes à lunch des enfants québécois. Et l'analyse qu'on a faite, c'est vraiment une analyse où on a fait ouvrir les boîtes à lunch là, aux enfants. Il s'agirait de la première analyse de ce genre au Québec. Elle a été réalisée par Julie Auclair, qui est du Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population rattachée au Cégep de Jonquière. Et elle a les boîtes à lunch ont été ouvertes. Le contenu a été recensé par les... On faisait remplir une petite grille par les enfants. Elle a décortiqué le contenu des boîtes à lunch des enfants de 4 camps de jour. C'est ça, c'était pas des écoles, par exemple. C'était un camp de jour. On va voir qu'il y a peut-être une incidence sur le résultat. Et selon les données compilées, seulement 25 % des lunchs étaient équilibrés, c'est-à-dire qu'ils contenaient au moins un aliment de chaque groupe, fruits et légumes, produits céréaliers, les substituts et viande et substituts. Trois groupes alimentaires sur quatre étaient toutefois présents dans la majorité des cas, soit dans près de 63 % des boîtes. La plus grosse lacune observée, le manque de produits laitiers. Mais là, on ne sait pas si elle dit seulement produits laitiers ou et substituts, parce que quand on nomme les groupes, on le nomme quand même. Donc, une donnée qui a même surpris la chercheure. Seulement une boîte à lunch sur deux en contenait, mais le fait que ce soit dans un camp de jour aurait peut-être joué, puisqu'elle se demandait si les parents étaient hésitants à mettre des produits laitiers dans une boîte à lunch en plein été.
Oui. Reste à voir, est-ce que les enfants ont besoin de ce groupe alimentaire? J'ai une opinion particulière par rapport à ça, savoir si les produits laitiers sont réellement un groupe alimentaire ou plutôt... un lobby qui aurait été créé. Est-ce qu'on en parle dans cet article?
Non, mais il y aurait une autre façon de l'analyser. Ce serait se demander est-ce que toutes les boîtes à lunch contenaient une source suffisante de calcium. Ce serait une autre façon de se le demander, ou de vitamine D.
Tout à fait. Est-ce que l'étude peut démontrer aussi les enfants étaient issus de quel groupe social?
Ça n'en parle pas dans l'article. Elle dit par contre que ça rendait l'étude délicate à réaliser, vu que c'est les enfants qui recensaient ce qu'il y avait dans leur boîte à lunch. Il fallait vraiment pas justement qu'ils se sentent jugés, surtout que c'est pas eux qui font leur lunch la plupart du temps.
Tout à fait. Maintenant, un article paru dans le journal Métro. Santé du cœur, les boissons énergisantes pourraient avoir davantage d'effets négatifs, bien sûr.
Oui, les boissons énergisantes interfèrent plus que la caféine seule sur le fonctionnement normal du cœur et l'hypertension. Et l'effet semble durer plus longtemps, selon une étude qui a été réalisée par des chercheurs de l'armée de l'air américaine. Ils étaient là, mes États-Unis. Alors, les scientifiques ont partagé, 18 jeunes participants. Ils admettent que ce n'est pas une étude avec un grand nombre. Mais le groupe, pendant un certain temps, la moitié buvait des boissons énergisantes, l'autre moitié du café et vice-versa plus tard. Et ils se sont vraiment rendus compte, à l'aide d'électrocardiogrammes, tout ça, que le cœur des consommateurs de boissons énergisantes met plus de temps à se remettre entre deux battements en vue du battement suivant, et cela pourrait causer une arythmie potentiellement mortelle.
Oh! Consommation à éviter, donc, c'est ce qu'on retient.
Oui.
En ce qui a trait aux boissons énergisantes. Et dernier article de cette revue de presse qui me semble être assez intéressant comme angle de recherche, c'est-à-dire deux études américaines qui ont évalué les conséquences à long terme de l'intimidation.
Oui, la première réalisée par des chercheurs du Delaware a constaté que les enfants qui sont intimidés en cinquième année commencent souvent à souffrir de dépression ou à consommer de l'alcool ou d'autres substances de manière excessive quelques années plus tard. Une autre recherche de l'Université de Pittsburgh s'est penchée sur les intimidateurs qui, eux, sont plus susceptibles de fumer le tabac ou la marijuana et d'être stressés ou agressifs 20 ans plus tard. Là, est-ce que c'est une conséquence ou les deux choses ont la même cause? Ce serait à considérer aussi. Mais les victimes, en revanche, sont plus susceptibles d'avoir des problèmes financiers, de se sentir victimisées par les autres, en plus d'avoir moins confiance en l'avenir deux décennies après les faits. Ce sont des séquelles importantes parce qu'elles augmentent le risque pour les hommes de souffrir de problèmes de santé, notamment de graves problèmes cardiovasculaires plus tard pendant leur vie.
Christiane Campagnan, merci beaucoup pour cette revue de presse. Je souligne le 375e anniversaire de Montréal. Vous êtes quand même une dame qui apprécie l'histoire en général, mais l'histoire de Montréal. Donc, on le souligne, puis on sait qu'il y aura plein de festivités aussi au cours des prochaines semaines et prochains mois.
Évitez les boissons énergétiques.
Et mettez plus de produits laitiers dans votre boîte à lunch. C'est une blague, bien sûr. Merci, Christiane Campagnan. Marie Lalande, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, conseillère pédagogique de français au primaire, maintenant retraitée, mais toujours bien au fait des calendriers scolaires, Marie.
Oui.
Et on est en plein dans la période d'examen.
En plein dedans. Pour certains élèves, c'est déjà commencé. Ça dépend des matières, là, mais ça s'en vient. Mi-juin.
On est là pour parler de l'autre côté de la médaille ensemble, Marie, parce que, bien sûr, les examens, ils sont là, ils sont obligatoires pour les enseignants. C'est une façon d'évaluer leurs élèves, jeunes élèves, parfois, de montrer aussi leurs compétences à travers ces examens-là. Et pour le parent, c'est une façon de voir où son enfant est rendu. Mais pour les petits, Ça peut être très exigeant.
Pour beaucoup d'enfants, pour certains élèves, c'est une période exigeante, une période occupée, stressante parfois pour certains enfants, puis même anxiogène pour certains. C'est une façon qu'on a de rendre des comptes puis de voir où on est rendu. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi c'est encore comme ça, on se pose la question. Mais bon, c'est une période obligatoire. Puis ça dépend de la commission scolaire où on est, ça dépend du niveau, de l'âge de l'enfant, mais ça représente pour la majorité des enfants un ou quelques examens de fin d'étape, des examens de fin d'année aussi, des examens qui sont conçus soit par l'enseignant, soit par la commission scolaire ou encore par le ministère de l'Éducation, qui, eux, sont obligatoires.
Moi, je me rappelle, Marie, quand j'étais plus jeune, les examens du ministère, c'était ceux qui étaient le plus stressants. On nous amenait ça comme quelque chose de bien, bien gros.
C'est encore ce qui est véhiculé dans les milieux scolaires.
C'est encore ce qui est vécu par les enfants.
Et donc, vécu par les enfants aussi. Et on peut se poser la question, pourquoi ces examens? Réponse, parce que les façons d'évaluer évoluent très lentement, vraiment très lentement. Les matières ciblées, les dates, découlent de décisions qui sont institutionnelles. Ça découle de la loi sur l'instruction publique, du régime pédagogique, du plan d'évaluation des commissions scolaires aussi. Ça, c'est la partie obligatoire. Les examens du ministère, il faut le savoir, sont élaborés par des équipes, des gens du ministère, des conseillers pédagogiques, des enseignants. C'est validé, ça, avec des vrais élèves, dans des vraies classes. Et c'est un exemple de ce qui est attendu en fin de cycle. Un exemple de ce qui est attendu de ce que les enfants devraient pouvoir faire. Donc, ça sert à réguler le système. Je m'excuse pour l'expression théorique, là, mais réguler le système, ça veut dire voir comment ça va, savoir si les enfants réussissent ce qu'ils devraient savoir, c'est-à-dire le programme, de façon locale, la classe, l'école, la commission scolaire, puis même nationale, parce qu'il y a des examens, on l'a dit, les examens du ministère, c'est tout le Québec en même temps. Ouais. Ils sont aussi considérés dans l'évaluation finale des élèves et valent un pourcentage de leurs résultats de l'année. Et on va voir concrètement quelle valeur concrète ça a dans leur évaluation.
Ouais.
Je ne veux pas revenir sur tout ce qui se discute ces temps-ci.
Le maquillage.
Le maquillage, la note planchée. Je ne veux pas aller là. D'autres l'ont fait.
On en a entendu parler notamment avec Patrick Lagacé dans la presse.
Notamment, puis même récemment, le 10 mai, il y a un enseignant de la région de Québec qui a écrit un article là-dessus. Je vous mettrai le lien parce que c'est un texte qui vaut la peine d'être lu. L'idée ici, là, c'est de mieux comprendre ce que les enfants vivent puis comment les parents peuvent aider. Dans cet ordre d'idées-là, parce que c'est un sujet qui est très, très large, la situation est différente d'un cycle à l'autre.
Et on ne pourra pas aller plus vite que le système scolaire lui-même. Voilà.
Alors moi, j'ai décidé de cibler, de donner un exemple de ce que peut vivre un enfant ou un élève qui est en sixième année, qui est dans une commission scolaire de l'Est de Montréal. Alors, dans cette commission scolaire-là, les élèves de sixième année ont une épreuve d'anglais de la commission scolaire qui cible les trois volets de cette compétence-là, l'oral, la compréhension et le volet de la production écrite. L'examen de la commission scolaire se déroule sur quelques périodes, réparties en avril, en mai et en juin. Alors, presque toutes les périodes de l'enseignant d'anglais de sixième année, de cet élève-là, sont consacrées à son évaluation avec l'enseignant spécialiste et ça vaudra 20 % de sa troisième étape au bulletin, cet examen-là. C'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien. Marie, A, B, C, D, E.
C'est des notes en pourcentage.
C'est des notes en pourcentage. On n'utilise plus les lettres.
Pas maintenant, en tout cas. Pas depuis les derniers changements au régime pédagogique.
Ouais. Est-ce qu'on peut se fier définitivement à ces pourcentages-là? Qu'est-ce qu'ils révèlent?
Ils révèlent la performance de l'enfant à cet examen-là. Comment il filait cet enfant-là ce matin-là, par exemple? Ça, on ne le dit pas. Hein? Ça, c'est particulier. Est-ce que je continue avec donc ce que l'enfant sixième vit? Parce que je vais donner un portrait de ce que cet enfant-là. Donc, avril, mai, juin, il est en examen en anglais. Le même élève en sixième année, comme tous les élèves du Québec d'ailleurs, 30, 31 mai, durant l'avant-midi, il est en examen de lecture. Donc, le 29, les activités préparatoires. Le 30, il va lire un récit, un texte littéraire, et on va lui poser des questions là-dessus. Le 31, il va lire un texte courant, donc un texte d'information, et on va lui poser des questions là-dessus, et ça vaudra 20 % de son résultat annuel, cet examen-là. Les 6 et 7 juin, donc la semaine suivante, cet élève-là sera en examen d'écriture, en production écrite. Donc, le matin du 6 juin, on lui présente le sujet. C'est un sujet qui est en lien avec ce qu'il a lu dans les textes, dans son examen de lecture. Il fait son brouillon. Le 7 juin, il transcrit son texte au propre. Il révise, puis il a révisé, puis il a corrigé ça. Et tout ça, ça vaut 20 % de son résultat annuel.
Là, vous nous rappelez des souvenirs. Mathieu Tessier est en régie, moi, ici, en studio, Marie. On revit ces périodes-là. Et ce n'est pas nécessairement joyeux.
Pas tellement,
on n'a pas de bons souvenirs.
Pas tout le monde, en tout cas. Moi, en tout cas, ça suscite chez moi, juste d'en parler, quelque chose qui remonte, là, comme enseignante, puis comme personne qui faisait vivre ça, là, c'est stressant. La semaine d'ensuite, du 12 au 16 juin, les élèves de tout le Québec sont en examen de mathématiques. 3 volets, la première partie, une situation problème qui est plus complexe, qui dure à peu près toute une avant-midi. Ensuite, la deuxième partie, c'est 6 situations d'application, donc des petits examens. Les enfants font 1 ou 2 par jour, c'est environ 20-30 minutes. La troisième partie, une vingtaine de questions, environ 1 heure. Puis on veut vérifier la maîtrise des concepts des processus mathématiques. Tout ça, 20 % du résultat final.
Évidemment, on donne toutes ces étapes-là, Marie, pour faire comprendre aussi aux parents qui nous écoutent. Et bon, Mathieu et moi, on disait, on le revit d'une façon pas nécessairement positive. Pour le jeune enfant qui vit ça, ça peut être extrêmement lourd aussi. Comment le parent peut aider concrètement à la maison à accompagner son enfant? Je pense que peut-être la première étape, c'est de comprendre que notre enfant est dans un processus pour lui extrêmement stressant.
Oui. En fait, d'une part, les parents, ils devraient être informés du calendrier. Ouais. La première chose, c'est que l'école devrait informer les parents. Connaître les dates, ça permet de mieux s'organiser. Ensuite, moi, je conseille aux parents de regarder ce calendrier-là avec leur enfant, puis d'essayer de ne pas placer des activités trop prenantes ou trop exigeantes en même temps. On pourrait aider, suggérer à notre enfant de réviser, de relire ses notes, ses aides-mémoires, quand il y en a, en fait, d'étudier ce qui est en lien avec l'examen prévu, s'il y a de la révision à faire. En lecture, ce n'est pas nécessaire. Par contre, par exemple, pour se préparer à l'examen d'écriture, souvent, on lui a présenté le sujet le mercredi matin. Bien, on pourrait en jaser avec l'enfant quand il revient à la maison. Puis l'idée, c'est d'en discuter, puis voir comment il peut organiser ses idées ou qu'est-ce qu'il peut écrire. S'assurer qu'il aura tout le matériel nécessaire à ses examens, et matériel qui est permis, évidemment, mais on pense à une trousse de géométrie, règles, crayons, gomme à effacer, aiguisoir, la calculatrice, quand c'est permis pour la situation problème en mathématiques, les tableaux de conjugaison, les listes orthographiques. Veiller aux heures et à la qualité du sommeil. Une bonne alimentation, prévoir une collation, prévoir de l'eau. Ouais. Ça a l'air de rien. Si l'enfant doit s'absenter, s'il est malade, parce que ça se peut que ça cause chez lui plusieurs maux de ventre, communiquer avec l'enseignant, puis voir si c'est quelque chose qui peut être repris, dans quelles conditions. Lui rappeler qu'il faut qu'il soit attentif aux consignes, parce que c'est important les consignes dans ces contextes-là, qu'il va essayer de faire de son mieux, essayer qu'il garde du temps pour se relire, pour se réviser. Lui rappeler qu'on a confiance en lui, puis lui dire que peu importe ses notes, on l'aime, puis on le jugera pas.
La valeur va pas avec le 78 % le 62 ou le 98. Marie, est-ce qu'on demande encore aux parents de signer les examens?
Non, parce que les examens, ils ne retournent pas à la maison. Les examens du ministère, à tout le moins. Ceux qui sont faits par l'enseignant, qui sont faits par plus maison, là, ça oui. Mais les examens du ministère, ça va pas à la maison.
Mathieu et moi, on est comme soulagés d'entendre ça. C'était pas le fun, ça, non plus. Hein?
Non. Puis d'ailleurs, les notes, comme elles font partie du résultat global, n'apparaissent pas nécessairement au bulletin. Est-ce qu'on a le temps de parler des élèves à besoins particuliers?
Rapidement, il reste 45 secondes,
alors,
Marie.
Il y a des mesures d'adaptation pour ces enfants-là. Si on a un enfant à besoins particuliers, ces mesures-là devraient être dans le plan d'intervention. Je donne un exemple. prolongation de la durée prévue de l'épreuve jusqu'à concurrence d'un tiers du temps normalement alloué, l'utilisation d'un appareil de lecture pour des enfants pour qui c'est nécessaire, passation de l'épreuve dans un endroit isolé pour un enfant qui est très, très, très anxieux.
Et vous avez aussi de belles ressources. On les mettra sur notre site web. Marie Lalande, merci beaucoup. Vous nous avez ramené plein de souvenirs, certains positifs et d'autres un peu plus anxiogènes. Docteur Langis Michaud, optométriste, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes présidente de l'Ordre des optométristes du Québec et avec vous, on commence aujourd'hui avec l'impact des écrans sur la santé visuelle des enfants. Ce que l'on sait, ce que l'on a pu observer à travers les dernières années, c'est que les enfants vivent de plus en plus avec la myopie, qui est un trouble oculaire qui pourrait sembler banal, mais en même temps, ce qui est inquiétant, et ça, c'est en Amérique du Nord notamment, c'est que ce trouble-là apparaît de plus en plus tôt et les écrans pourraient avoir un rôle à jouer dans cette maladie oculaire.
Oui, en fait, comme vous le rappeliez, c'est banal la myopie, mais c'est pas banal quand on devient très myope et là, il y a des pathologies associées. Donc, glaucome, rétine, décollement de rétine, baisse de vision, vision réduite de 30 à 40 % quand on est rendu à 70 ans. Bref, il faut prévenir cette évolution-là. Et les écrans, donc, les écrans eux-mêmes n'ont pas de grand impact. Donc, il n'y a pas de rayonnement nocif, il n'y a pas de rayon X. Bon, il y a eu des discussions sur les lumières bleues, les choses comme ça. Bon, plus ou moins que ça donne de la fatigue, mais pas de myopie. Ce qui est important de constater, c'est que les écrans nous obligent, par le mode de vie qu'ils donnent dans nos vies de tous les jours, à solliciter nos yeux de 7 heures le matin à 11 heures le soir. Et c'est ça qui est dérangeant. Notre système visuel n'est pas bâti pour ça, notamment chez les enfants, où ils sont vraiment, mais vraiment pas bâtis. Au point qu'une des recommandations, puis ça va peut-être surprendre vos auditeurs, c'est que on recommande qu'aucun enfant de 3 ans ou moins ne devrait avoir une tablette ou un téléphone pour jouer en aucun temps. Donc, aucune exposition. À la limite, peut-être un 30 secondes, le temps qu'on dépose l'autre bébé par terre, qu'on rouvre la porte de la maison, puis après ça, on rentre, mais on y enlève tout de suite après, et là, bonne chance de y enlever. Donc, c'est mieux de ne pas y donner au départ. donc, parce que le système visuel est vraiment, vraiment pas bâti, et ça, c'est le stress que ça apporte sur le système visuel. D'une part, de regarder ces écrans-là, de regarder les petites choses qu'il y a sur l'écran. Le temps qu'on y passe et qu'on y consacre, et plus on vieillit parce qu'on s'y est habitué plus jeune, là, ça devient vraiment un mode de vie qui est une sollicitation qui est tout azimut entre 7 heures le matin et 11 heures le soir.
Donc, 3 ans et moins, aucun contact avec les écrans. On parle ici d'ordinateur, tablette, téléphone intelligent. Après 3 ans?
3 ans, habitant maximum 30 minutes par jour. Et après 8 ans, dépendant des besoins de l'école, nos écoles demandent beaucoup les ordinateurs et les tablettes maintenant, donc on module, évidemment avec l'âge et les besoins de l'école, mais à toutes les fois où on dépasse un certain nombre de minutes, important, très important de faire des pauses fréquentes. Donc, à toutes les 20 minutes de travail sur écran ou sur tablette, de regarder au loin, à distance, ou ne juste que se fermer les yeux pour 20 secondes, et après une heure d'arrêter, pour une pause un petit peu plus longue et de continuer. Je voudrais un enfant en bas de 12-13 ans ne devrait pas avoir plus qu'une heure de tablette par jour.
Ouais.
École inclus.
Langis Michaud, j'entends les parents demander et la télévision dans tout ça.
Télévision, beaucoup moins pire. Pourquoi? C'est que la télévision, elle est d'une part plus loin. Elle est moins sollicitante au niveau des yeux de façon générale. Et l'autre chose, c'est qu'on a un regard fixe, surtout avec les grands écrans qu'on a maintenant, on a un regard fixe à une distance précise. Avec la tablette, le problème qu'on a, c'est qu'on regarde de proche notre tablette. On va regarder un petit peu plus loin quelque chose qui est écrit ou qui est sur le bureau. Mm-hmm. On va regarder quelque chose sur le mur. On va regarder quelqu'un qui rentre. On revient sur notre tablette. Donc, on a plusieurs gymnastiques à faire avec nos yeux, entre le loin, le proche, l'intermédiaire. Donc, on n'arrête jamais de jouer avec nos distances. C'est comme si je vous demandais de courir un mille ou un kilomètre en natation moderne et à différentes vitesses. Le premier 100 mètres à pleine vitesse, le deuxième 100 mètres à vitesse ralentie, troisième vitesse, on recommence à vitesse rapide. Donc, votre kilomètre va être fatigant à faire. Alors que si vous faites un petit pas de jogging très régulier, à votre rythme, tranquillement, votre kilomètre, il va paraître comme une randonnée tout à fait agréable. Le jogging et la télévision et la tablette, c'est le fait de faire des sprints, arrêt, sprint, arrêt, sprint, arrêt. Donc, pour le système visuel, c'est le jour et la nuit en termes de demande visuelle.
Et notamment pour nos petits qui n'ont pas ce système-là encore adapté.
Tout à fait. Ouais. Ce qui est important, par contre, autant télé qu'écran, c'est d'avoir un environnement lumineux qui est suffisant. Donc, d'avoir assez de lumière, de jamais regarder dans la noirceur, de jamais regarder en pénombre parce que ça fait trop de contraste, de jamais avoir une fenêtre derrière qui, elle, va être un contraste vraiment dérangeant pour l'œil, ou de côté, ce qui fait des reflets inappropriés sur l'écran. Donc, d'avoir le meilleur environnement possible dans un environnement naturel de lumière. Et en bout de ligne, si on veut vraiment prévenir chez les tout-petits l'apparition de myopie et des problèmes plus tard, c'est un minimum de 45 minutes à une heure de jeu à l'extérieur.
Voilà.
Donc, il faut aller jouer à l'extérieur. Il faut retrouver des vies d'enfants, des vies normales d'enfants dans un contexte normal d'enfants. Et quand on dit dehors, c'est pas d'amener l'iPad dehors. c'est vraiment de jouer dehors. Pourquoi? Parce que plusieurs phénomènes. D'une part, on regarde au loin. On regarde vraiment toujours à distance. Donc, on ne sollicite vraiment pas de façon importante notre vision. On n'a pas à faire ces gymnastiques de différentes distances. Et il y a des éléments dans la lumière naturelle du soleil qui vont stimuler la vitamine D, entre autres, qui va être générée, qui va stimuler une santé naturelle au niveau de l'œil, qui va empêcher la progression de la myopie. Ce qui n'arrivera pas si on le prend en supplément, par exemple, en comprimé ou avec l'alimentation ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le jeu extérieur, l'exposition à la lumière naturelle du jour et l'activité physique, évidemment, qui est oxygénante et bénéfique pour la santé générale, qui va nous aider à maintenir cet équilibre au niveau visuel.
Oui. Langis Michaud, j'ai l'impression qu'on oublie parfois que la santé visuelle dans le développement de l'enfant, en ce qui a trait notamment bon, son développement moteur, à ses apprentissages aussi, est extrêmement importante. L'enfant apprend beaucoup par ses yeux.
80 %. C'est vrai pour l'enfant, c'est vrai pour l'adulte, c'est vrai pour tout le monde qui nous écoute. Et les gens qui sont moins voyants ou qui ont une vision plus déficiente dans vos auditeurs le savent très bien. Quand ils ont été affectés, s'ils n'ont pas les moyens de compenser avec des loupes, des télévisionneuses, des choses comme ça, ils ont perdu une grande part de leur source d'information qu'il faut qu'ils compensent par de l'audio. Et heureusement que des organismes comme vous existent pour ça. Mais l'information qu'on acquiert de nos jours est à 80-85 % dû à la vision et à la lecture et à l'apprentissage qu'on en fait. Donc, les enfants, important de bien les examiner parce que c'est leur outil le plus important de réussite scolaire. Un cinquième des enfants, avant l'entrée à l'école, ont des problèmes, non détectés, non dépistés. Un sur quatre, 25 % à l'école primaire, ont des problèmes souvent non dépistés, non détectés, et ça s'en va en s'empirant, évidemment, quand on arrive au secondaire et au cégep. Seulement 15 % des enfants au Québec ont un examen régulier avant l'entrée à l'école, c'est catastrophique. Mm-hmm. Ajoutons à ça l'environnement scolaire, les TBI, les fameux tableaux intelligents qu'on a mis dans toutes les écoles du Québec, à coût de 250 millions de dollars de nos taxes, ont été mis dans des contextes sans qu'on y pense. C'est dans un environnement très souvent, j'ai encore eu le témoignage d'une enseignante cette semaine.
Quelques secondes, Dr Michaud.
Oui, quelques secondes. Pour bien voir le tableau intelligent, il faut baisser l'éclairage d'Atlas et rendre l'Atlas noir pour augmenter le contraste comme dans une salle de cinéma.
C'est difficile pour les yeux de nos enfants. Dr Michaud, voilà. Vous êtes optométriste, président de l'Ordre des optométristes du Québec. Merci beaucoup. On se retrouve dans un mois.
Ça sera avec plaisir.
Au revoir.
Et examinez vos yeux.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On parlera avec Michèle Sirois. Elle est collaboratrice à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Elle nous présente son nouveau livre « Vieillir en santé, c'est possible », coécrit avec Sylvie Belleville. On y abordera différentes questions qui, je pense, saura vous intéresser parce que le vieillissement, on est tous concernés, donc comment assurer sa qualité de vie le plus longtemps possible et être âgé, qu'est-ce que ça signifie? Mais tout juste avant, je joins Catherine Guérard. Elle travaille du côté de Altergo, oui, comme chef d'équipe de formation. Catherine Guérard, bonjour.
Bonjour.
C'est la période estivale qui s'en vient. On veut inscrire nos enfants à des activités de loisirs, des camps de jour, des camps d'été. Et lorsqu'ils vivent avec une limitation fonctionnelle, on veut que ces activités soient accessibles. Est-ce que c'est possible à Montréal d'inscrire nos enfants dans des activités de loisirs accessibles? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Tout à fait. À Montréal, si on parle précisément de l'offre de camps de jour, il y a tout d'abord les camps de jour réguliers, donc qui sont offerts à l'ensemble de la population, qui accueillent des jeunes qui ont différentes limitations fonctionnelles dans leurs activités de loisirs. Donc, ils ont accès, ces organismes-là, à des formations, du soutien financier pour justement outiller leur personnel à travailler avec des jeunes qui ont une limitation fonctionnelle et parfois même recevoir du soutien financier pour embaucher des accompagnateurs qui vont travailler avec ces jeunes-là. Mais à Montréal, on a aussi la chance d'avoir des organismes qui sont spécialisés pour les personnes qui ont différentes limitations fonctionnelles et donc qui offrent aussi des activités de camp de jour, autant pour les plus jeunes que les moins jeunes, mais qui vont répondre vraiment aux besoins de clientèle dont les limitations fonctionnelles sont parfois un peu plus sévères et qui ont besoin à ce moment-là d'être dans des camps de jour qui sont vraiment conçus selon leurs besoins.
Catherine, comment on peut guider le parent qui cherche ces activités adaptées ou encore ces établissements qui offrent des activités adaptées?
Bien, le premier rôle en tant que parent, c'est de sélectionner, de choisir dans quel type d'activité, dans quel type de camp de jour on aimerait inscrire son enfant, hein, parce qu'il y en a pour tous les goûts, des camps de jour sportifs, des camps de jour musicaux, des camps de jour plus réguliers. Il faut voir aussi l'offre qui s'offre près de notre quartier. Souvent, en tant que parent, on cherche un camp de jour qui va être à proximité soit de notre travail ou de notre lieu de résidence. C'est souvent un bon premier départ parce que, comme je vous mentionnais, étant donné que ces camps de jour-là doivent accepter les personnes qui ont une limitation fonctionnelle dans leur camp de jour, bien, les parents, comme tout autre parent, peuvent faire des demandes pour les inscrire dans le camp de jour du quartier qui peut être soit un camp de jour du centre communautaire ou d'un centre de loisirs. Sinon, ben, quand on cherche des ressources plus spécialisées dans des organismes dédiés aux personnes qui ont une limitation fonctionnelle, à ce moment-là, le meilleur outil nous qu'on réfère, c'est le guide qui est Suivez le guide, qui est un répertoire, qui a été conçu par Altergo et qui répertorie en fait tout ce qui existe à Montréal en termes d'activités, d'organismes, de services, de programmes dédiés aux personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Puis il y a une section camp de jour à l'intérieur.
Catherine, on parle du rôle ou des obligations du parent. Est-ce que les camps de jour ont ce genre d'obligations aussi lorsqu'ils reçoivent un appel d'un parent qui a un enfant qui vit avec un handicap ou une limitation fonctionnelle?
Bien, tout à fait. Tout organisme public du Québec est obligé, en fait, en fonction de la Charte des droits et libertés du Québec, ne peut pas faire de discrimination. On n'entrera pas dans tous les détails, mais il y a 13 motifs prévus à la loi au Québec là, qui peuvent être des motifs de discrimination, dont le handicap. Et tous ces organismes-là qui sont assujettis à cette loi-là sont obligés, pour éviter la discrimination en fonction du handicap, de faire une démarche d'accommodement raisonnable pour évaluer la possibilité d'accueillir et d'adapter ses activités, sa programmation aux besoins des personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Et ça, c'est pour tous les organismes, autant un organisme spécialisé qu'un organisme régulier.
Ah, ça, c'est très intéressant à souligner, Catherine. Justement, une municipalité, un camp de jour, un camp d'été qui souhaite pouvoir rendre possible l'accès à un enfant en situation de handicap à son camp, à ses activités. Comment il peut adapter? Est-ce qu'il peut vous appeler chez Altergo pour que vous puissiez l'aider ou l'accompagner dans ces adaptations-là?
Nous, on offre chez Altergo depuis plusieurs années un service de formation où on offre des formations destinées au personnel de camp de jour, qui sont des formations en accompagnement loisir, qui sont vraiment là pour outiller, comme vous le mentionnez, les employés des camps de jour à adapter leur communication autant directement avec le jeune qui est accompagné, donc nos interactions, nos façons de faire, mais aussi comment adapter nos activités, notre programmation, s'assurer que le jeune est inclus, pas seulement dans l'activité, mais dans le groupe, dans le camp de jour, dans les sorties. Donc ça, c'est un des volets qui est fait par Altergo, d'offrir de la formation à ces organismes-là. Sinon, on a aussi sur notre site Internet, on publie fréquemment des outils qui sont disponibles gratuitement. Je vous parlais de Suivez le guide, qui est un répertoire. On a aussi des documents qui sont des guides à l'attention du parent, des guides à l'attention de l'accompagnateur qui répertorient toutes les bonnes pratiques en matière d'inclusion.
Oui, altergo.ca.
Tout à fait.
Quand on veut adapter, on a plusieurs critères à évaluer. J'imagine l'un des premiers, c'est l'état de l'enfant, sa santé, son type de handicap.
Tout à fait. Puis dans ce cas-là, notre meilleur allié, c'est le parent. Parce que le parent, c'est lui qui connaît le mieux le jeune. Il faut établir un lien de confiance avec le parent pour qu'il comprenne que si on pose autant de questions par rapport à son enfant, c'est justement dans le but de faciliter puis d'améliorer sa participation au camp de jour. Donc oui, souvent, nous, ce qu'on va suggérer, c'est des rencontres avec les parents dans le but d'évaluer quelles sont, oui, les limitations fonctionnelles du jeune, quels sont ses besoins, quelles sont les adaptations qui pourraient être nécessaires, mais aussi en termes de capacité. Hein, on parle souvent à des enfants qui ont une limitation fonctionnelle de difficulté, mais ces jeunes-là ont des forces, des intérêts, ont une personnalité. Donc, c'est important aussi pour bien l'accompagner de connaître quels sont ses intérêts, ses jeux préférés, ses forces, ne serait-ce que sa couleur préférée, qui vont nous permettre aussi d'adapter notre programmation puis nos activités en fonction de ça pour que lui aussi, ses forces, ses intérêts soient mis en valeur dans le groupe.
Oui, et qu'il se sente accueilli à sa place. Il y a peut-être même une notion de sensibiliser les autres jeunes lors de la première journée.
Tout à fait. Nous, on suggère fortement aux accompagnateurs de se présenter comme personne ressource, de dire dans le groupe, je serai avec vous cet été, j'accompagne des jeunes, sans mettre l'emphase en particulier sur un jeune, sans nommer son trouble ou sa déficience, de tout simplement dire, je suis ici comme personne ressource, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez vous référer à moi pour gérer des conflits, si vous voulez entrer en contact avec le jeune, parce que oui, des fois, c'est des personnes qui peuvent avoir de la difficulté au niveau de la communication, des interactions sociales. Donc, il faut que l'accompagnateur se positionne dès le début du camp comme la personne référente. Oui.
Qui dit adaptation parle aussi d'adapter le matériel utilisé pour les activités. Chez Altergo, vous faites du prêt de matériel, Catherine?
Oui, en fait, c'est avec le volet du défi sportif Altergo, qui est un organisme, un événement que vous connaissez sans doute, là, événement, oui, hein, tout à fait, donc pour des athlètes handicapés. Et c'est un excellent service, en fait. Le défi sportif prête du matériel sportif gratuitement aux organismes qui désirent, avec leurs jeunes, faire des activités sportives adaptées, donc que ce soit du matériel pour pratiquer le goalball, qui est un sport pour des personnes qui ont une déficience visuelle, plein de matériel comme ça qui permettent autant un camp de jour qui n'a pas nécessairement de jeunes qui ont une limitation fonctionnelle pour faire des activités de sensibilisation, mais aussi pour des camps de jour qui accueillent des personnes qui ont différentes limitations fonctionnelles qui vont lui permettre à ce jeune-là de faire partie d'un sport qui est adapté puis qui est conçu pour lui.
Ouais. Catherine, l'autre fois, j'accompagnais mon ami Luc Fortin, que vous connaissez, au cinéma, et j'ai pu bénéficier d'un rabais sur mon billet parce que j'étais considérée comme accompagnatrice. J'ai vraiment été étonnée de ce service-là. Donc, une personne en situation de handicap peut bénéficier d'un accompagnateur et il y a bien sûr certains avantages.
Tout à fait. On appelle la VATL, la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs, qui, comme vous l'avez dit, est une vignette accordée à une personne qui a une limitation fonctionnelle, mais qui permet la gratuité d'entrée à son accompagnateur. Mmh. Et ça, c'est pour tout lieu touristique de loisirs. C'est québécois. Donc, partout où vous allez au Québec, il y a une liste sur le site Internet de la VATL, donc vatl.org, qui répertorie l'ensemble des lieux, événements québécois qui accueillent, qui acceptent cette VATL-là. On parle autant des salles de cinéma, des salles de spectacle, des festivals. Ça va jusqu'au terrain de golf, au terrain de ski. On est vraiment là, dans le tourisme et dans le loisir à sa plus large échelle. Et c'est vraiment une vignette qui est très, très intéressante. C'est pour les enfants de 12 ans et plus.
Mm-hmm. Ben, c'est parce que ça permet à une personne en situation de handicap de se dire parfois, je peux sortir.
Tout à fait, tout à fait. Puis le coût de l'accompagnement, c'est souvent une dépense qui est très importante lorsqu'on est le parent d'un enfant qui a une limitation fonctionnelle ou même un adulte avec une limitation fonctionnelle. Deux billets d'entrée pour un spectacle à la Place des Arts ou au Musée des Beaux-Arts, ça peut être dispendieux. Savoir que son accompagnateur ne payera pas parce que l'accompagnateur n'est pas là pour le plaisir, est vraiment là pour permettre à la personne qui a une limitation fonctionnelle de participer à cette activité-là, c'est un magnifique programme.
Oui, et une façon tellement d'être inclus à cette société, le lendemain au travail, de dire « Hey, je suis allée voir ce spectacle-là au TNM ou à tel festival », ben ça permet d'engager la discussion et de partager, ce qui est très précieux. Évidemment, il y a plein d'autres ressources, Catherine, l'Association des camps de jour, on peut s'y référer aussi. Il y a votre guide sur le site Altergo. On peut s'adresser directement à notre municipalité, si on a des questions aussi.
Tout à fait. Les municipalités sont là pour aider les organismes à inclure les personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Ils ont parfois des ressources financières aussi, des ressources matérielles. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à les contacter.
Je redonne votre site altergo.ca. Catherine Guérin, vous êtes chef d'équipe de formation Altergo. Vous étiez là pour nous parler d'activités de loisirs accessibles pour les enfants, mais pour les grands aussi, notamment en cette période estivale où on a envie de mettre le bout du nez dehors.
Oui, quand le soleil va être de retour.
On le souhaite.
Oui, tout à fait.
Bye, Catherine.
Merci.
Aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. En fait, l'espérance de vie est de plus de 82 ans. De plus en plus vieux, mais est-ce que de plus en plus en santé? On l'aborde avec Michèle Serrois. Elle vient d'écrire un livre « Vieillir en santé, c'est possible ». Michèle, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Collaboratrice à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et clown thérapeutique. D'ailleurs, on s'était rencontrés il y a déjà, quoi, un an ou deux en lien avec ce livre « Clown d'hôpitaux, c'est du sérieux ». Et c'est aussi, j'imagine, ce travail que vous faites en tant que clown auprès des enfants malades, autant des personnes âgées, qui vous a amené cette réflexion autour de ce livre « Vieillir en santé, c'est possible ».
Oui, c'est sûr que quand je travaille en clown, les personnes âgées que je visite, c'est des personnes avec souvent 80 % de la clientèle a des démences. Mais je collabore avec l'Institut de gériatrie de Montréal depuis plus de 15 ans, justement à la promotion de la santé, la vulgarisation scientifique. Alors, l'idée nous est venue de produire ce livre-là parce qu'on s'est rendu compte que les personnes âgées, de plus en plus, veulent être informées et de plus en plus se plaignent qu'elles n'ont pas d'outils adaptés à leurs nouvelles conditions de personnes qui marchent doucement vers le vieillissement.
Ouais.
Donc, de la façon qu'on a procédé, on s'est collé sur les chercheurs du Centre de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. J'ai interviewé des chercheurs, vraiment les tops là, dans le domaine. Et on a rédigé 11 chapitres qui répondent vraiment aux besoins des personnes âgées. Et c'est Sylvie Belleville, qui est la directrice de la recherche, qui a dirigé l'ouvrage. Donc, tout ce qui est dans le livre a été validé par la science. On n'est pas dans les recettes miracles, mais on est vraiment dans les stratégies à adopter pour vieillir. Faire une belle vieille personne, mais en santé. Parce que c'est bien beau rajouter des années, ouais. Mais on veut avoir des
prix?
Années. Exactement, ouais. On veut des années en santé.
Ouais. Ouais. Michèle, la première question que vous posez dans ce livre, c'est quand devient-on une personne âgée? Est-ce que c'est à la retraite? Est-ce que c'est quand on atteint un âge précis? Moi, je me dis, est-ce que c'est quand on tombe malade, quand notre conjointe décède? Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
C'est un grand débat. Il y a longtemps, on a décidé qu'on était une personne âgée à 65 ans.
Ouais.
Mais là, si on regarde nos baby boomers qui ont 65 ans, ils sont à peu près tout sauf âgés. Hein? C'est vraiment une cohorte de gens en général très scolarisés, assez à l'aise financièrement, très curieux, branchés sur la technologie. Donc, on pourrait plutôt dire, là, on avance plutôt dire que les défis qui sont liés au vieillissement, de ce temps-ci, ça apparaît un peu plus à l'entour de 80 ans. Mais là encore, je regarde Mme Bertrand, Jeannette Bertrand, qui du haut de ses 91 ans, et alerte, écrit à tous les jours, Mme Suto, qui a joué au théâtre jusqu'à l'âge de 92 ans. Donc, on ne devient pas vieux du jour au lendemain. C'est un processus, un peu comme quand on embarque dans l'enfance. Alors, on est un enfant à un an, mais on est aussi un enfant à 15 ans. Donc, le vieillissement, c'est la même chose. Ça se fait tout doucement. Puis nos besoins à 60 ans ne sont pas les mêmes qu'à 95 ans non plus.
Au cours des interviews, vous avez rencontré, bon oui, des gens issus de la science, des personnes âgées aussi, de par votre expérience des 15 dernières années à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ces personnes âgées, quelles sont leurs priorités et leurs besoins?
Oui, alors c'est ça. Il y a des chercheurs à Montréal qui ont questionné justement la cohorte de personnes âgées. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les gens ne veulent pas être informés sur la maladie. C'est quoi l'infarctus, puis le diabète, puis tout ça. Non. Ils veulent savoir qu'est-ce qui va les empêcher d'avoir une belle qualité de vie.
Mm.
Et ce qui est ressorti, je vous dirais, les trois chapitres qui ressortent vraiment fréquemment, c'est vraiment tout ce qui touche la mémoire. Comment je peux faire pour garder ma mémoire en forme? Comment je peux me garder en forme, mobile, être capable de continuer à faire tous mes loisirs et tout ce dont j'ai envie, et tout ce qui touche la douleur chronique.
Mm-hmm. Parce qu'on sait que c'est assez présent. Pour rester autonome le plus longtemps possible, la clé, et j'ai vu que vous aviez pu parler, la chance de parler à Louis Bérère, c'est souvent l'activité physique.
D'ailleurs, c'est le premier chapitre du livre. Les gens vont dire, bon, encore, ils vont nous dire de bouger. Et c'est de plus en plus vrai. C'est vrai tout le long de notre vie et je dirais qu'en vieillissant, c'est encore plus vrai. Comment s'y prendre? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui disent « Mais moi, je n'ai jamais fait d'activité. » Il faut d'abord, si on décide de s'en aller dans un gymnase ou adhérer à un entraînement, on consulte notre médecin si on n'a jamais fait d'exercice ou si on a des inquiétudes. Il faut trouver une activité qu'on va aimer, quelque chose qui va nous faire plaisir, on se sent bon. Si on a toujours haï le golf parce que c'est trop éthique puis trop compliqué, on est mieux de ne pas adhérer à ça, ça ne marchera pas. Ensuite, il faut que ça soit simple, pas trop loin, des horaires pas trop compliqués. Puis en général, on dit une composante qui va faire qu'on va adhérer à un exercice puis qu'on va le garder, c'est de ne pas le faire tout seul, de le faire en tout cas en duo ou en groupe. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, parce que vous parlez de Louis Bérard, qui était d'ailleurs le responsable de ce chapitre-là. Et on a trouvé, en fait, on exclut la personne qui parle, Louis a trouvé à travers ses recherches que l'exercice physique, oui, ça va maintenir tout notre système cardiovasculaire en forme, notre équilibre, notre tonus, mais au-delà de ça, ça va collaborer à améliorer, à maintenir et même à améliorer notre mémoire, à être plus alerte mentalement.
Ce qui est une priorité des personnes âgées.
Exactement. Alors, on fait une pierre deux coups. Et alors, ce qu'on propose, c'est 30 à 40 minutes de marche assez rapide là, pour être assez essoufflé, trois fois par semaine. Et après trois mois, on a vraiment évalué que les gens étaient beaucoup plus alertes et avaient une meilleure mémoire.
L'activité physique, surtout lorsqu'elle est faite avec quelqu'un d'autre, un proche, ça permet aussi de garder le réseau animé. Et ça, j'imagine, c'est important
mais
aussi.
Mais tellement. Parce qu'on pose souvent la question, oui, mais si on résume, c'est quoi les facteurs clés pour bien vieillir? Et je vous dirais que partout, tout le long du livre, on parle d'éviter l'isolement. On le sait que c'est quelque chose qui peut guetter certaines personnes âgées. La qualité de nos relations humaines, d'avoir des relations où on sent le support, la confiance, où on peut créer des liens, où on peut recevoir, où on peut donner, c'est vraiment un des facteurs clés. Ensuite, bien sûr, bouger pour garder tout notre système cardiovasculaire en forme, ça va avoir des répercussions sur notre mémoire. Bien manger, des aliments variés, à tous les jours, prendre trois repas, c'est des choses assez simples. Et je dirais aussi, demeurer curieux, continuer à apprendre. Et au-delà de tout ce que je viens de vous dire, c'est de s'adapter. J'ai envie de dire avec humour et tendresse envers soi-même.
Mais ça, c'est une question que je voulais vous demander, Michel Serrois, parce que vous avez un parcours particulier, oui. Clown thérapeutique.
Ancienne infirmière,
comédienne aussi. Est-ce que l'on peut rire du fait de vieillir?
Ah, ben moi, je vous dirais que les personnes âgées, c'est une gang qui a vraiment, vraiment beaucoup d'humour. Et je dirais que ceux qui en ont beaucoup traversent cette période de la vie en s'adaptant avec une certaine, légèreté à leur propre égard. Ouais. Moi, je pense que quand on rit de quelque chose qui pourrait nous causer du souci, on est en train d'enlever de la force à cette chose-là. Alors,
c'est une stratégie d'adaptation.
Tout à fait. On en parle d'ailleurs dans le livre que l'humour fait partie aussi d'une stratégie pour bien vieillir.
Vous avez parlé des douleurs chroniques qui préoccupent nos personnes âgées. On sait les pourcentages, les statistiques, en fait, sont bien élevées en ce sens. Est-ce qu'on peut faire quelque chose si on vit avec des maladies chroniques?
Oui. Alors, c'est sûr que la douleur chronique, c'est quelque chose qui est très fréquent dans le vieillissement. On va parler surtout de douleurs au niveau des articulations. C'est très fréquent, les genoux, les hanches. Et je vous dirais que le mal de dos l'emporte. Moi-même, aujourd'hui, du haut de mes 50, presque 8 ans, j'ai mal au dos parce que j'ai soulevé quelque chose de trop lourd et je me suis mal pris. Alors, oui. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les gens attendent trop longtemps avant d'aller consulter. On pense que parce qu'on est plus vieux, c'est normal d'avoir mal. Là, on sort ça de la tête. Non, pas du tout. On demande, en fait, on propose aux gens de prendre, le dessus sur leur douleur. C'est vrai que quand ça fait 6 mois que tu as mal au genou, que tu ne fais pas ton exercice, que tu ne vois plus tes amis parce que tu ne sors plus, tu ne dors pas bien, puis tu t'en vas te faire dire, il faut prendre pouvoir sur votre douleur. Bon, peut-être que ce n'est pas ça que les gens ont envie d'entendre. Mais on a mesuré que quand on ne demeure pas passif face à notre douleur, mais qu'on devient actif et qu'on pose des gestes pour diminuer la douleur, on a vraiment de beaux taux de réussite, j'ai envie de dire. Grosso modo, on dit qu'il faut diversifier les approches. Donc, des approches physiques, physiothérapie, ultrasons, des approches psychologiques. Alors là, on va parler de tout ce qui est corps-esprit, donc la méditation, le tai chi, le yoga adapté. On s'est rendu compte, à Montréal, Pierre Rainville a fait des recherches, et on s'est rendu compte que quand on est entouré d'émotions positives, on ressent moins la douleur. Ils ont mesuré ça avec le réflexe de la moelle épinière. Et donc, les émotions, essayer d'avoir des émotions positives alentour de nous, diminuer tout le stress qu'on peut. Et ensuite, la troisième approche, c'est bien sûr toute la médication.
Oui, donc, on parle de plus en plus, Michel, de déprescription. Mm-hmm. Il y a un volet accordé aussi dans Vieillir en santé, c'est possible, sur la médication. Quelles sont les recommandations en ce sens?
En fait, on doit toujours se poser la question, est-ce que c'est possible de ne pas prendre de médicaments? Est-ce qu'il y aurait autre chose que je pourrais faire que prendre un médicament sous ordonnance. Alors ça, je dirais que c'est la première chose. En fait, on encourage, et de plus en plus, on encourage les médecins, les pharmaciens sont tout à fait d'accord avec cette nouvelle philosophie-là, que si on ajoute un médicament, on révise nos besoins de santé pour voir si on ne serait pas capable d'en retirer un. Parce qu'on sait que 90 % des gens de 65 ans et plus prennent des médicaments, mais en général, c'est 3 à 5 sortes de médicaments.
Ouais.
Alors, on essaie parce que chaque fois qu'on rajoute un médicament, il y a un danger d'interaction médicamenteuse, d'effets secondaires. Alors, on
essaie. De dépendance aussi.
Oui, dans certains cas, on peut avoir aussi de la dépendance. Mais il faut faire attention. La dépendance, souvent, les gens, par exemple, on parlait de douleur tout à l'heure, les gens disent « Ah, ben moi, je ne veux pas prendre de médicaments, je ne veux pas devenir accro aux opiacés. » On parle beaucoup des opiacés ces temps-ci. Mais si on n'est pas reconnu comme toxicomane, on ne deviendra pas accro psychologiquement de notre médicament. Il n'y a pas de risque à ça.
Opiacés, aussi somnifères, on en parle beaucoup.
Oui.
C'est peut-être même le premier cheval de bataille pour la déprescription dont
tout
on parlait.
Tout à fait. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines classes de somnifères, enfin, c'est pas toutes les classes, mais les benzodiazépines, entre autres, pouvaient avoir des répercussions justement sur la mémoire. Alors ça, c'est important. Fait que si on peut éviter de prendre cette classe de médicaments, on va s'aider.
Les plus belles rencontres que vous avez pu faire à travers Vieillir en santé, c'est possible?
En fait, comme j'ai interviewé des chercheurs, vraiment, comme je dis, les tops, les,
oui,
les Céline Dion de la recherche, oui, en gériatrie, j'ai été extrêmement touchée par la passion qui anime ces gens-là. Je peux vous dire que la gériatrie au Québec, à cause de ces chercheurs, est entre très, très bonnes mains et appuyée sur des cerveaux très solides aussi, je pourrais vous dire.
Des cerveaux alertes.
Oui, voilà, ils sont très alertes, je peux vous dire. Alors, je pense que le Québec, là, on n'est pas en retard dans la recherche au niveau de la gériatrie. Et le livre a été vraiment, fait vraiment, je dirais, honneur à tous ces grands chercheurs. On a bien vulgarisé, c'est un livre,
oui,
qui est écrit vraiment, c'est facile à lire. On est dans le gros bon sens. Et je pense que c'est vraiment un outil pour quelqu'un qui amorce son vieillissement ou quelqu'un qui a déjà les deux pieds dedans.
Ou pour un proche qui voit une personne, un parent, un conjoint vieillir, qui a peut-être des craintes, des questionnements par rapport au vieillissement. Et ça apporte, bien sûr, à réfléchir. Quand on devient vieux, première question que vous posez. Et on va se quitter là-dessus, Michel. Lorsqu'on apprend à rire, lorsque l'humour est présent, peut-être que le cœur vieillit un peu moins vite.
C'est très bien dit.
Michel Sirois, vous collaborez depuis maintenant plus de 15 ans à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous êtes clown thérapeutique et vous venez d'écrire ce livre « Vieillir en santé, c'est possible » sous la direction scientifique de Sylvie Belleville. Toujours un plaisir de vous avoir, peut-être dans 2 ans pour le prochain livre.
Je vais vous amener un livre pour enfants la prochaine fois.
Excellent, vous serez bienvenue.
Merci.
Dernier segment de cette émission, c'est bon pour la santé. Moment où je vous parle d'un coup de cœur ou d'une inspiration. Et cette semaine, je lève mon chapeau à la nutritionniste Julie Aubé, une fille que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect, notamment pour son travail. Elle a fouillé, Julie Aubé, le sujet de l'agrotourisme, notamment dans un livre qui est paru il y a à peu près 1 an, jour pour jour. Un livre qui s'intitule « Prenez le champ », c'est publié aux Éditions de l'Homme. Et dans ce livre, Julie est allée à la rencontre d'à peu près 90 producteurs agricoles, des artisans québécois aussi. Elle présente le portrait de ces personnes, de ces travailleurs d'ici, sous forme d'escapades, donc 21 escapade gourmande est située un petit peu partout au Québec, à Gatineau, à Montréal, à Trois-Rivières et à Québec. C'est une façon un petit peu d'associer des histoires, des visages et des paysages à des aliments. Parce que c'est ce qu'elle souhaite faire, Julie Aubé, c'est-à-dire de favoriser cette rencontre entre les consommateurs que nous sommes, les mangeurs que nous sommes et les producteurs agricoles, ces agriculteurs qui travaillent fort, mais parfois un petit peu sous silence. Hein. On peut avoir cette observation. Les chefs cuisiniers ont énormément de tribunes ces dernières années. On sait tous d'eux, ils sont partout. Or, c'est pas le cas avec les producteurs agricoles et l'agrotourisme, ça permet cette rencontre, c'est-à-dire d'aller directement dans les fermes, dans les champs ou même au marché public du coin, de rencontrer ces producteurs agricoles, de leur acheter directement des produits alimentaires, que ce soit, oui, du lait, des œufs, du miel, du vin. Bref, plein de bonnes choses, de discuter avec eux de leur travail, de découvrir aussi une région du Québec qui est parfois dynamisée même par ce travail agricole. Ça permet de consommer des aliments qui sont saisonniers, qui sont peu emballés et peut-être fait de façon plus artisanale que de façon industrielle. C'est ce que l'on souhaite aussi. Et c'est une façon d'éviter le gaspillage, selon Julie Aubé, parce que quand on sait d'où vient un aliment et tout le travail qu'il a demandé, on a rencontré la personne qui a travaillé à nous fournir ce bon produit, on a envie de ne pas le gaspiller et de bien le cuisiner. Ça nous amène peut-être à être plus créatifs en cuisine. Donc, vous voyez comment l'agrotourisme peut éveiller aussi notre façon de consommer la nourriture, mais aussi, c'est une forme de plaisir pour les enfants, une belle conscientisation, hein, de leur dire que les œufs ne viennent pas du IGA ou du Provigo, une façon de goûter également peut-être des aliments que l'on connaît moins et de cueillir. On peut cueillir des asperges, on peut cueillir des cerises, donc de découvrir les produits qui viennent d'ici. Je vous le rappelle, ce livre s'appelle « Prenez le champ » aux éditions de l'Homme. Et en même temps, Julie Aubé, c'est pour ça que je vous en parle, elle est dans l'actualité parce qu'elle vient de lancer un nouvel événement, événement « Prenez le champ », une façon d'orchestrer des rencontres, encore une fois, entre les mangeurs et les agriculteurs. Et ça amène à plein d'activités vraiment intéressantes comme un pique-nique dans une ferme d'asperges éco-poétique, de l'entraînement physique sur une ferme, l'auto-cueillette d'asperges, asperges de rhubarbe. Bref, encore une rencontre entre la santé, l'agriculture, et c'est toujours le plaisir, le but de cette femme formidable, Julie Aubé. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. C'est Mathieu Tessier à la mise en onde, à la recherche, Sylvie Rivard et Louise Vien. Et aux médias sociaux, c'est Christiane Campagna. Je vous invite à nous joindre, que ce soit par Twitter, que ce soit par Facebook, sur notre site web, canalm.vusezvoix.com, ou encore par téléphone. Bref, nous, on veut vous entendre, on veut vous lire et bien sûr, je veux recréer ce rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura un autre « C'est bon pour la santé ». Portez-vous bien d'ici là, c'est Marianne Paquette. Je vous salue. Bye-bye.